Bonjour à tous. Bon, d'abord, j'aimerais vous remercier pour votre soutien dans la prière. J'étais très touché par les marques d'affection, par les petits coups de téléphone ou les SMS. Vous savez que j'ai eu une intervention chirurgicale au genou, rien de bien grave. Je vous rassure tout de suite. Il faut que je massagisse, il ne faut pas trop que je pense que tout va bien alors que je suis encore en convalescence, mais ça va très bien. En tout cas, merci. Et merci au Seigneur. Alors, dimanche dernier, notre frère Clément, qui je crois n'est pas là ce matin, il a eu des petits soucis de santé. Ah, il est là. Désolé. Il nous a délivré un message édifiant sur la fiabilité de la parole de Dieu. Hein, si vous vous en souvenez, il s'était basé sur Luc au chapitre 1, versets 1 à 4. Et dans lequel nous avons vu combien la constitution de l'évangile de Luc, et aussi du livre des Actes, cette constitution a été le fruit vraiment de recherches scrupuleuses, de recueils de témoignages sérieux, dignes de foi. Et on sait par ailleurs que Luc avait destiné son évangile, mais aussi le livre des Actes, à un certain Théophile. Mais en revanche, on ne sait pas trop, finalement, quel est l'accueil que ce Théophile a réservé à la parole de Dieu. En tout cas, Luc n'avait pas écrit son évangile pour que son livre orne les bibliothèques, mais pour qu'il suscite une réponse de la part de ses lecteurs. Alors, pendant ces 3 années de ministère sur cette terre, Jésus-Christ s'est acquitté d'une mission que lui avait confiée son Père Céleste, à savoir annoncer la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, c'est le royaume de Dieu qui arrive. C'est la possibilité de se réconcilier avec Dieu pour celles et ceux qui mettent leur confiance en lui. Mais comment les auditeurs de Jésus ont-ils accueilli son message, sa parole? Alors, pour répondre à cette question, je vous invite à méditer ensemble un passage, et on va rester dans l'évangile de Luc. Luc, au chapitre 8... J'ai la version Semeur, Luc chapitre 8, verset 4 au verset 15. Luc chapitre 8, verset 4 au verset 15. Une grande foule, ayant afflué de chaque ville, s'était rassemblée autour de lui, donc autour de Jésus. Alors Jésus lui raconta cette parabole. Un semeur sortit pour faire ses semailles. Pendant qu'il répandait sa semence, des grains tombèrent au bord du chemin, furent piétinés par les passants et les oiseaux du ciel les mangèrent. D'autres tombèrent sur de la pierre. À peine eurent-ils germé que les petits plants séchèrent parce que le sol n'était pas assez humide. D'autres grains tombèrent au milieu des ronces. Celles-ci poussèrent en même temps que les bons plants, mais les étouffèrent. Mais d'autres tombèrent dans la bonne terre. Ils germèrent et donnèrent du fruit. Chaque grain en produisit 100 autres. Et Jésus ajouta, « Celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. » Les disciples lui demandèrent ce que signifiait cette parabole. Il leur dit, « Vous avez reçu le privilège de connaître les secrets du royaume de Dieu. Mais pour les autres, ces choses sont dites en paraboles. Ainsi, bien qu'ils regardent, ils ne voient pas, bien qu'ils entendent, ils ne comprennent pas. Voici donc le sens de cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Au bord du chemin, ce sont les personnes qui écoutent la parole, mais le diable vient arracher de leur cœur pour empêcher de croire et d'être sauvés. Sur de la pierre, ce sont ceux qui entendent la parole et l'acceptent avec joie. Mais comme ils ne la laissent pas prendre racine en eux, leur foi est passagère. Lorsque survient l'épreuve, ils abandonnent tout. La semence tombée au milieu des ronces représente ceux qui ont écouté la parole, mais en qui elle est étouffée par les soucis, les richesses et les plaisirs de ce monde. de sorte qu'elle ne donne pas de fruits. Enfin, la semence tombée dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant écouté la parole, la retiennent dans un cœur honnête et bien disposé. Ils persévèrent et ainsi portent du fruit. Donc jusque-là, notre lecture de ce matin. Alors, il s'agit d'un passage qu'on appelle communément la parabole du semeur. Et dans ce passage, Jésus utilise une image qui est tirée de la vie quotidienne. Le message de Jésus, donc, est comparé ici à l'activité d'un semeur. Une image agricole qui était très familière à l'époque, puisque une bonne partie de la population vivait de l'agriculture. Donc, quand Jésus parle de quelqu'un qui va semer, ils ont tout de suite l'image en tête. Donc, on a lu que cette parabole était elle-même racontée, hein, du verset 4 au verset 8. Et à partir du verset 11, Jésus explique. Alors, à la limite, un message aurait été inutile aujourd'hui, puisque l'explication est donnée par Jésus à partir du verset 11. Et il compare la semence à la parole de Dieu et les quatre types de sols différents à la manière dont on reçoit cette parole. Et je vous propose aujourd'hui de voir ensemble la manière d'accueillir la parole de Dieu. Il y en a quatre. Quatre manières d'accueillir la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et je vous propose de passer en revue ces quatre façons d'accueillir la parole. Premièrement, accueillir la parole avec indifférence. Nous l'avons lu tout à l'heure, le verset 5 qui est expliqué au verset 11, au verset 12, pardon. Ce sont des personnes qui écoutent la parole, mais le diable vient l'arracher de leur cœur pour les empêcher de croire et d'être sauvés. On est ici en présence d'un sol stérile. Vous savez, à l'époque, pour ensemencer, eh bien, l'agriculteur empruntait un sentier qui séparait les champs et il commence à répandre les graines avec un geste ample, comme ça, un peu comme vous voyez sur cette photo. Et en lançant les graines, il faisait bien sûr attention à ce que celles-ci se répandent le plus possible dans la terre qui est labourée, pour qu'elles prennent racine. Mais souvent, il y avait toujours quelques graines qui tombaient sur le sentier. Or, ce sentier était souvent fréquenté. Et donc, à force d'être fréquenté, ce sentier devenait dur, comme de la pierre. Et comme du ciment, et qui ne pouvait pas permettre à une graine de germer. Et c'est cette partie de graine qui représente le premier type de personne, la première manière d'accueillir la parole de Dieu. Le diable vient les arracher de leur cœur pour les empêcher de croire et d'être sauvés. Il s'agit donc ici d'un cœur qui est dur. Un cœur endurci, aussi dur que du ciment. Un cœur aveuglé, insensible à la parole. Et durant son ministère, Jésus-Christ aura affaire à ce type de cœur, ce type d'auditoire. Notamment des personnes qu'on appelait les pharisiens, qui étaient des spécialistes de la loi juive à l'époque. Et Jésus ne manquera pas de les fustiger, de les reprocher d'avoir une piété apparente, mais en fait d'être dur dans leur cœur. Alors de nos jours, chers amis, le message de l'Évangile est devenu pour nombre de personnes un message insupportable. Dès qu'on parle de Jésus, il y a comme une espèce de rejet systématique, une volonté de rester sourd, aveugle au regard de ce message. C'est vrai que c'est un message qui interpelle, un message qui est un appel à se détourner de ses péchés, donc qui accuse un peu la conscience de l'homme. Et l'homme n'aime pas être accusé dans sa conscience. Mais l'auditoire de Jésus, dans le contexte de notre lecture, n'était pas forcément un auditoire athée, c'est-à-dire qu'il ne croyait pas en Dieu. Dans le contexte de l'époque, qui s'adressait à des personnes plutôt religieuses. Mais on peut tout à fait avoir une certaine spiritualité, on peut avoir une certaine religiosité, on peut même être d'accord sur le fond du message d'amour de l'Évangile, tout en refusant ce message pour soi-même. Ce qui en définitive ne change rien, puisque le cœur restera dur. C'est un peu comme ceux qui sont d'accord pour que les choses changent dans leur vie, mais qui finalement ne sont pas prêts à voir du changement eux-mêmes dans leur cœur. Vous voyez cette petite illustration. Qui veut du changement? Tout le monde veut changer, veut du changement. Mais dès qu'on dit qui veut changer, alors là, non, c'est un peu plus difficile. Par ailleurs, dans ce passage, on voit qu'il y a un personnage qui vient un peu trop jouer le rôle de parasite, hein, afin de brouiller le message de l'Évangile, de l'empêcher de prendre racine dans le cœur de l'homme. Et ce personnage, c'est le diable. Jésus en parle dans sa parabole. Satan est le père du mensonge. Satan est celui qui prend plaisir à tromper, à aveugler l'intelligence de l'homme, jusqu'à se déguiser même en ange de lumière. Il y a quelques versets qui nous l'attestent. Le Dieu de ce monde a aveuglé leur esprit, les empêche ainsi de voir, de voir briller la bonne nouvelle. Dans 2 Corinthiens chapitre 4. On a aussi ce passage qui dit que Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Donc c'est trompeur. On peut facilement être berné par le diable. Parce qu'il est celui qui arrive à détourner, à corrompre la vérité de l'Évangile en le transformant en faux Évangile. Satan, c'est celui qui veut rendre l'homme indifférent à la parole de Dieu. Il est arrivé de visiter des personnes, pas des personnes de l'Église, mais des personnes qui m'ont été recommandées pour que j'aille un peu les voir. Notamment, il y a cette personne qui a des problèmes de santé. Et donc, quand je vais le voir, on parle de tout et de rien au début. J'écoute un peu cette personne qui parle de ses malheurs, qui a notamment des problèmes au niveau affectif, etc. Mais quand je veux parler de l'Évangile, à chaque fois, il commence à avoir une crise de toux. À chaque fois, ça ne rase pas. Et je me pose parfois des questions, mais qu'est-ce qui se passe à chaque fois que j'ouvre la Bible, que je veux parler de l'Évangile? Il a des quintes de toux et puis donc ça s'arrête là. Et je prie le Seigneur vraiment que cette personne arrête d'être aveuglée comme ça, d'être bernée par le diable. Accueillir donc avec... c'est la première manière, donc c'est accueillir de manière indifférente. Et la deuxième manière, c'est d'accueillir avec une foi superficielle. Ce sont ceux qui entendent la parole et l'acceptent avec joie, mais comme ils ne la laissent pas prendre racine en eux, leur foi est passagère. Et lorsque survient l'épreuve, ils abandonnent tout. Verset 13 du passage que nous avons lu tout à l'heure. Ce sont des personnes donc, qui apparemment sont intéressées, des personnes qui se réjouissent du message de l'Évangile, mais qui très vite ne demeurent pas fidèles à la vérité de ce message. Ils acceptent, on va dire mentalement, intellectuellement, les vérités de la parole, mais quand arrivent les difficultés, eh bien ils la rejettent. Vous savez que le Seigneur Jésus, au début de son ministère, il était suivi par de nombreuses personnes. Un certain nombre demeuraient avec lui, cependant, parce qu'ils étaient impressionnés par son charisme, son autorité, impressionnés par les guérisons miraculeuses, par la multiplication des pains, etc. Mais la parole de Dieu nous apprend que, petit à petit, beaucoup ont fini par l'abandonner. Dans Jean chapitre 6, verset 66, on peut dire, par exemple, cette réalité. Finalement, quand on voit ce que cela implique véritablement dans sa vie, eh bien non, on préfère laisser tomber. Alors de nos jours, il y a des personnes comme ça, qui semblent emballées par le message de l'Évangile. Il y en a même qui se font baptiser dans leur enthousiasme. Moi je connais des personnes qui étaient venues me voir et qui voulaient se faire baptiser. J'ai dit oui, mais on demande pourquoi, bien entendu. Ah, parce que j'ai vu un baptême une fois, oh, c'était super, l'ambiance était bien. Et voilà, on sentait de l'amour dans la salle. Je me suis posé la question en disant, est-ce que c'est vraiment la raison pour laquelle cette personne peut se faire baptiser? Et d'ailleurs, cette personne est venue au départ pour les formations, mais n'est plus venue ensuite, en entendant ce que ça impliquait dans sa vie, de suivre le Christ. Certes, le message de l'Évangile est un message qui remplit de joie, on est d'accord, hein. la joie du pardon du péché, la joie de la perspective de la vie éternelle, la joie d'avoir cette nouvelle chance de débuter une nouvelle vie. Mais il semblerait que certaines joies soient peut-être motivées par une fausse interprétation de la teneur du message de l'Évangile. Il est bon de savoir qu'il y a des prédicateurs qui présentent le message de l'Évangile comme une antidote à tous les problèmes. Problèmes matériels, problèmes affectifs, problèmes de santé. Donc le message de Jésus, c'est la réponse à tout ça. Et en entendant cela, bien sûr, ceux qui ont des problèmes, notamment, sont emballés. Ceux qui ont des problèmes financiers, en entendant ça, sont emballés. Manifeste un intérêt certain. Une fois, il y a eu une campagne d'évangélisation quand on était étudiant dans la ville de Saint-Maur. Et on distribuait des invitations à une soirée d'évangélisation. Et quelqu'un avait reçu cette invitation, était venu à la soirée. Il a été emballé par le message. Il est venu un ou deux dimanches. Quand il chantait, il fallait le voir. Ça faisait chaud au cœur. Il levait les yeux. Mais on ne l'a plus vu après. Et quand on a voulu savoir de ses nouvelles, c'était impossible de le contacter. On ne savait pas. On ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Il y a eu un emballement. Alors, ceci dit, il y a des conversions qui sont accompagnées de grâces particulières. Moi, je connais aussi quelqu'un, quand il s'est converti, quelqu'un qui était accro à la drogue, qui a été instantanément délivré. C'est une grâce particulière que Dieu peut accorder. Mais il ne faut pas se tromper de message, les amis. Le message de l'Évangile prêche d'abord la repentance des péchés, le salut des âmes. Pas tout de suite ou d'emblée la guérison physique ou psychique instantanée, ni l'assurance d'un job bien rémunéré le lendemain de notre conversion, ni la rencontre à coup sûr de l'âme sœur. Non. Attention, la chute peut être brutale si nous nous attendons tout de suite à la disparition soudaine de tous les problèmes. Le message de l'Évangile est d'abord un message qui nous appelle à nous repentir de nos péchés, c'est-à-dire à reconnaître notre petitesse devant la grandeur de Dieu et de l'accepter comme notre maître et comme notre sauveur. Il y a aussi des gens qui, ayant compris qu'après coup, suivre le Seigneur impliquait de prendre position par rapport à la famille, par exemple, une famille non chrétienne ou une famille d'une autre religion, et parfois ils préfèrent céder à la pression et abandonner finalement leur foi. Abandonner la bonne voie dans laquelle ils s'étaient apparemment engagés. C'est vrai qu'il y a des familles dans lesquelles le fait qu'un membre choisisse de suivre Jésus-Christ, ça peut être une source de dilemme, voire une source de souffrance due au rejet. Mais en fait, c'est là que se révèle vraiment la vraie nature de notre foi. Le Seigneur Jésus dit dans Luc chapitre 14, versets 26 à 33, « Si quelqu'un vient à moi et n'est pas prêt à renoncer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs et même à son propre moi, il ne peut être mon disciple. Celui qui n'est pas prêt à tout abandonner, tout ce qu'il possède, ne peut pas être mon disciple. » C'est une parole claire et qui fait réfléchir. La troisième manière d'accueillir, c'est de l'accueillir avec une foi immature. La semence tombée au milieu des ronces représente ceux qui ont écouté la parole, mais en qui elle est étouffée par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie, de sorte qu'elle ne donne pas de fruits. Ce sont ceux qui entendent, mais qui ne grandissent jamais dans leur pseudo-foi. Ce sont des personnes aussi qui ont apparemment été attirées aussi, touchées par la parole de Dieu, qui ont l'air d'avoir reçu favorablement cette parole et qui m'ont même peut-être été baptisées. Mais ce message se trouve étouffé par des parasites de ce monde, des parasites mondains. C'est un cœur beaucoup trop passionné, beaucoup trop préoccupé par des valeurs qui sont cultivées dans le monde de ce siècle. Il se laisse entraîner par trois choses. D'abord, les soucis de la vie. Il se laisse engloutir par les soucis qui deviennent sournoisement un prétexte pour ne plus avoir le temps à consacrer au Seigneur. Un travail qui passionne, qui accapare tellement, au point d'oublier, au moins de négliger sa relation avec Dieu. Au point d'oublier de participer à la vie de l'Église. Un prédicateur théologien qui s'appelle John Glass, avait fait une prédication sur ce même passage. Et il a appelé cette troisième catégorie « Monsieur ou Madame, je m'excuse ». Pourquoi il dit ça? Ça m'a quand même un peu interpellé. Ce sont des personnes qu'on ne voit plus à l'église après un certain temps. Et quand on demande des nouvelles, il y a toujours une excuse. Ah, c'est mon travail, me prend trop. Ah, mes enfants. Alors, c'est certainement qu'il y a peut-être des soucis. Hein. Tout le monde en a. Mais souvent, ça devient un prétexte. Voilà, je peux passer trop loin, j'ai raté mon bus. Voilà, plein de choses. Et c'est vrai que ça fait réfléchir. Et toujours dans l'évangile de Luc, au chapitre 21, verset 34, Jésus dit « Prenez garde à vous-même pour que vos esprits ne s'alourdissent pas à force de vous tracasser pour les choses de la vie. Sinon, ce grand jour, quand on parle de grand jour, c'est le jour du jugement, ce grand jour vous surprendra tout à coup. » Quand on sera surpris par le grand jour, c'est qu'on n'était pas préparé pour ce grand jour. Que peut-être qu'on n'était pas prêt encore à rentrer dans le royaume de Dieu. Les soucis de la vie. Il y a aussi les richesses. Mais que dit la Bible des richesses? Peut-être que vous connaissez ce passage qui dit « L'amour de l'argent est la racine de toutes sortes de maux. » La suite, c'est « Pour s'y être abandonné, certains se sont égarés très loin de la foi et se sont infligés beaucoup de tourments. » Dans 1 Timothée chapitre 6, verset 10. Il y a un passage qui est très connu, même dans le monde non chrétien, qui dit « On ne peut pas servir Dieu et l'argent. » Soit on s'attache à l'un, soit on s'attache à l'autre. Alors il y a un exemple aussi de quelqu'un qui était attaché au pouvoir, à l'argent. Dans le livre des Actes, il s'agit d'un certain Simon, qui était magicien. Il avait été réceptif à la prédication de la bonne parole, de la bonne nouvelle en Jésus-Christ, par le prédicateur qui s'appelait Philippe. Mais, oui, parce que il était d'ailleurs baptisé. Hein. La parole dit « Simon lui-même crut et fut baptisé ». Mais quelque temps après, ce même Simon a été très vite rattrapé par l'appât du pouvoir. Dans Actes 8, 18, 19, la parole dit « Il leur proposa de l'argent et leur dit, en voyant Pierre et Jean qui étaient venus aussi là, « Donnez-moi aussi ce pouvoir !» Pour ceux à qui j'imposerai les mains, reçoivent aussi l'Esprit Saint. Quelle est la réponse de l'apôtre Pierre? Que ton argent périsse et toi avec lui, puisque tu t'es imaginé qu'on puisse se procurer le don de Dieu avec de l'argent. Simon n'avait rien compris à l'évangile. Pourtant, il a cru, dit la parole. Apparemment, c'était dans la joie, il a reçu. Mais c'était une foi immature, une foi encore empreinte de soif, de pouvoir. Il était encore imbu de notoriété. Il y a aussi un autre passage dans Luc, chapitre 18, l'histoire de ce notable qui a demandé à Jésus « Qu'est-ce que je peux faire pour avoir la vie éternelle ?» Lui aussi, il avait une soif. Jésus a dit « Vends tout ce que tu as. » Et là, il a vu qu'est-ce que ça impliqué dans sa vie et il est reparti. Et Jésus a dit, au verset 24 de Luc 18, il a dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il y a aussi les plaisirs de la vie. Les plaisirs de la vie. Si ces plaisirs exercent en nous une certaine fascination ou une certaine emprise, si nous accordons plus de crédit au plaisir charnel, c'est-à-dire le plaisir de la chair, plus qu'à Dieu, eh bien nous serons comme ce troisième terrain qui ne porte pas de fruits. Alors il ne faut pas se tromper non plus. Les richesses matérielles, le plaisir de la vie ne sont pas mauvaises en soi. Qui n'apprécie pas un bon repas en famille ? Une bonne soirée passée avec nos proches, nos frères et sœurs. Les vacances, les sorties, au cinéma ou pizza, ou enfin. Vous savez que le Seigneur Jésus lui-même, dans Jean au chapitre 2, il était invité à une fête, à un mariage, hein, les noces de Cana. Mais c'est vrai que Dieu peut nous accorder des grâces, des plaisirs, pour que nous en jouissions. Mais la question est de savoir, chers amis, quelle place prennent-elles dans notre vie ? Quelle est notre manière de les gérer ? Quelles sont nos motivations ? Quelles sont nos priorités ? J'ai entendu le témoignage d'une sœur de notre église, elle se reconnaîtra certainement, qui avait dit « Ah, moi, avant, ah, qu'est-ce que j'aimais danser !» Toujours, à chaque fois que c'était le samedi, je ne pouvais pas m'empêcher d'aller danser, mais le Seigneur a changé mon cœur. Attention aux addictions aussi. Si nous sommes addicts au plaisir de la vie, il y a un problème. Quelqu'un avait dit, les plaisirs de la vie, c'est comme la mer. Tant que notre bateau flotte sur la mer, tout va bien. Mais si c'est la mer qui flotte dans le bateau, alors là, bonjour les dégâts. Quelle est la place des plaisirs de la vie, dans notre quotidien ? Quand nous faisons le, quand il y a un choix cornélien qui s'offre à nous, si nous disons, ah non, alors là, je ne peux pas, il faut que j'aille en boîte de nuit, là, c'est pas possible, là. Ah non, je suis trop attiré par ce concert. Tant pis pour le culte de dimanche matin. Oui, je crois qu'il faut se poser des questions. Donc ce sont des personnes qui ont initialement laissé entrevoir de belles promesses, hein, de bonnes potentialités, de par leur intérêt certain de l'Évangile, mais qui par leurs actes ont montré qu'elles étaient finalement des personnes à la fois immatures et finalement impropres pour le royaume de Dieu. Dernière manière d'accueillir la parole de Dieu, c'est de l'accueillir avec une foi vraie, une foi profonde, une foi authentique. Le verset 15 dit « Ce sont ceux qui, ayant écouté la parole, la retiennent dans un cœur honnête et bien disposé. Ils persévèrent et ainsi portent du fruit. » Donc là, il s'agit d'un auditeur dont le cœur est déjà préparé à entendre, à recevoir favorablement la parole de Dieu. Il a de bonnes dispositions. Et quand il écoute la parole, il la reçoit et l'accueille pour lui-même. Il répond positivement à l'appel de Dieu avec humilité et obéissance. Comme les autres, il entend. Mais à la différence des autres, lui, il comprend. Il comprend la teneur du message de l'Évangile, c'est-à-dire Jésus, venu comme un homme qui s'est donné, qui s'est sacrifié afin que nos péchés soient effacés, purifiés par son sacrifice, afin que nous puissions avoir la vie éternelle. Ça, il le comprend. Il comprend la gravité de ses péchés devant Dieu. Il comprend qui est Jésus-Christ. Il comprend le sens de la mort et de la résurrection de Jésus. Il comprend qu'il a besoin de la grâce de Jésus. Et tout ce qu'il veut, c'est accepter Jésus pour qu'il soit le maître, le seigneur de sa vie. Et pour cela, il est prêt à tous les sacrifices. Il est prêt à en payer le prix. Il est prêt à être en porte-à-faux vis-à-vis de sa famille, de ses amis. Et surtout, là, il y a un mot-clé que nous avons lu au verset 15. Il porte du fruit. Chers amis, un chrétien sans fruit n'est pas un chrétien. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez, dit Jésus dans Matthieu chapitre 7, verset 20. Et dans Jean chapitre 15, verset 5 aussi, il y a cette idée de fruit. Alors quand Jésus parle de porter de fruits, c'est bien entendu une manière imagée pour désigner les conséquences visibles d'une vie changée. Ce sont des fruits spirituels, des fruits d'attitude, de comportement. Et si vous regardez dans Galates au chapitre 5, à partir du verset 22-23, vous verrez toutes sortes de fruits, entre guillemets. L'amour, la joie, la paix, la patience, la tempérance, la maîtrise de soi, etc. Un changement flagrant par rapport à son ancienne vie. Les fruits que le chrétien porte sont la preuve, en fait, que son cœur a été intérieurement transformé et authentiquement transformé. Moi qui vous parle, il y a des choses que je faisais avant dont j'ai honte. J'étais quelqu'un qui disait facilement des insanités, des gros mots. J'étais quelqu'un qui mentait aussi facilement. J'étais quelqu'un qui vivait dans l'immoralité. Et le Seigneur vraiment a changé mon cœur. Je peux le dire, je peux en témoigner devant vous. Et il continue à transformer. Parce qu'il y a encore plein de choses qui ne vont pas chez moi. Mais il faut dire aussi que chaque chrétien ne porte pas toujours les mêmes fruits. Parce qu'on est, on peut être tenté en voyant une conversion extraordinaire de notre voisin chrétien d'à côté. Oh, je ne suis pas comme ça, moi. Je n'ai pas eu de tels changements dans ma vie. Comment se fait-il que lui ou elle, il y a un changement extraordinaire et moi pas? Est-ce que je suis chrétien en fin de compte ou pas? Mais pour cela, il y a un verset extraordinaire dans Matthieu chapitre 13, verset 23, qui dit c'est alors, chez l'un, alors ce passage dans Matthieu 13, 30, c'est le passage parallèle de la parabole du semeur hein, qu'on vient de lire dans Luc chapitre 8. Hein. Chez l'un, un grain, on en rapporte 100. Chez un autre, 60. Chez un autre, 30. C'est une manière de dire que si un chrétien est effectivement celui ou celle qui porte du fruit, eh bien chacun portera des fruits différemment. L'important, c'est d'avoir d'abord un cœur changé. Et de porter un fruit qui est digne de ce cœur changé. Alors en conclusion, chers amis, Dieu nous appelle à nous examiner et à sonder la profondeur de notre foi. Il y a des questions qui se posent ce matin, que j'aimerais poser à chacun d'entre nous. Quel genre de terrain sommes-nous aujourd'hui ? Quel auditeur de la parole de Dieu sommes-nous ? Est-ce que nous faisons partie de ceux qui entendent, mais qui restent insensibles à la parole de Dieu ? Est-ce que le message du salut nous emballe au début, nous séduit, mais au final nous déçoit ? Parce que finalement, rien ne se passe comme nous l'espérions dans notre quotidien, sur le plan matériel, sur le plan de notre santé ou sur le plan affectif. On a même parfois l'impression que ça empire. Et on abandonne. Est-ce que nous sommes tellement absorbés par la vie, par la famille, par le travail, par les plaisirs mondains, que nous ne voyons plus aucun intérêt à entretenir une relation avec Dieu, aucun intérêt à participer à la vie de l'Église, de lire au culte, par exemple, ou aux études bibliques ou autre? Dans ces trois premiers cas de figure, chers amis, clairement, le Seigneur ne nous considère pas comme des disciples. Parce que nous ne portons pas de fruits. Et c'est une invitation, ce matin, à faire partie du quatrième type de terre. Être un cœur disposé à recevoir humblement la bonne semence. Et là, je dirais, comme l'a dit le Seigneur Jésus, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Question, comment se portent nos oreilles spirituelles aujourd'hui ? Peut-être est-il temps de choisir définitivement notre camp. Ne plus rester dans cette situation ambiguë où on cloche des deux côtés. On balance sans cesse. Entre les deux, mon cœur balance. Finalement, on continue comme ça. Jusqu'à quand ? Attention. Le Seigneur fait encore grâce, mais le jour viendra où on peut être fauché, excusez-moi de vous le dire, on peut être fauché par la mort à tout moment. Qu'allons-nous faire quand nous serons devant Dieu ? Qu'allons-nous lui dire ? Que celles et ceux qui n'ont pas encore fait ce choix définitif de se donner au Seigneur Jésus puissent le faire aujourd'hui. Et pour nous qui avons déjà reçu favorablement cette bonne semence, nous qui cheminons avec le Seigneur, que nous soyons jeunes chrétiens ou peut-être chrétiens de longue date, hein, des vieux de la vieille, comme on dit. eh bien, nous sommes encouragés à rester toujours enracinés dans notre foi. Mais notre responsabilité aussi, j'allais dire même notre première responsabilité, c'est d'être comme ce semeur. Il sème. Dans le passage qu'on vient de lire, on ne voit pas, le Seigneur Jésus ne dit pas qui est clairement le semeur. Il parle de la semence qui est la bonne parole. Donc le semeur, on peut penser que c'est le Seigneur Jésus parce qu'il a semé la parole aussi. Mais nous aussi, qui appartenons à Jésus, nous qui sommes chrétiens authentiques, eh bien nous sommes aussi des semeurs. Notre responsabilité, c'est de semer la parole de Dieu d'une manière ou d'une autre. Semer sans se comparer aux autres, hein. Semer sans complexe, semer sans penser qu'on est nul, par exemple, en évangélisation. Parfois on se dit « Ah mais l'autre, il sait bien parler de Jésus, moi non. » Et j'ai un peu honte, je suis timide. Semer quand même. Notre vie, les fruits que nous portons, peuvent être déjà une semence. Semer sans nous décourager quand on voit de la réticence ou de l'hostilité de certains quand on leur tend un évangile ou quand on leur témoigne de l'amour de Dieu. Ça peut arriver, peut-être que vous, vous avez connu ça, vous avez été vertement réprimé, je ne sais pas comment on peut appeler ça, quand on, vous avez voulu donner un évangile. Alors, vous savez que notre rôle, c'est de semer, mais après, c'est l'affaire du Seigneur. C'est lui qui va toucher les cœurs. Et puis, nous, notre responsabilité, c'est de semer sans savoir dans quel terrain nous allons semer. Hein. Bien sûr, le Seigneur peut nous donner le discernement pour dire qu'il y a, telle personne qui semble plus disposée, mais pas forcément. Il y a des personnes qui semblent comme ça, disposées, mais qui restent toujours le même, vitam aeternam. Alors, ici, dans l'Église, nous avons à disposition plein d'évangiles de Luc. Ici, des calendriers qui relaient le message de l'Évangile. Samedi prochain, nous aurons notre fête de Noël, je vous le rappelle, ou je vous l'apprends pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore. Le 16 décembre prochain, à 16h30, nous avons encore plein d'invitations, que ce soit ici en haut ou en bas. Donc, n'hésitez pas à en prendre et puis à les distribuer. Parce que c'est dommage de laisser ces évangiles au fond d'un tiroir ou dans le KGB, alors que tant de personnes ont peut-être besoin d'entendre ce message. Et font peut-être partie de ce terrain qui a soif de la parole. Qu'est-ce qu'on en sait? Et peut-être qu'ils n'attendent que le message de l'évangile vraiment pour venir. Peut-être que cette personne est tout près de nous. Un collègue de travail, un membre de la famille, un voisin, une personne qui est présente ici, peut-être aussi, ce matin. En tout cas, que nous puissions, frères et sœurs, aujourd'hui accueillir le message de l'évangile comme il se doit, c'est-à-dire comme une bonne terre. Que nous soyons à notre tour, ensuite, des semeurs. Parce que c'est vraiment à ça que nous sommes appelés. Et le but de cette parabole, en fait, c'est d'encourager aussi chacun à semer. À semer. Sans forcément se préoccuper du terrain. Sans choisir les personnes à qui nous donnons des évangiles. Moi, j'ai parfois la tendance à le faire. Non, celui-là, il n'a pas une belle tête, celui-là. J'ai l'impression qu'il va me jeter quand je vais lui donner ça. Alors, et puis, si on ne veut pas, notre rôle est de semer. Prions. Seigneur, merci pour ta parole. Ta parole qui est la vérité. Ta parole qui nous montre le chemin pour venir à toi. Ta parole qui nous appelle à nous repentir, à reconnaître nos péchés. Ta parole qui nous appelle à t'accepter comme le Seigneur et comme le Maître de notre vie. Toi, Seigneur Jésus, qui est venu sur cette terre pour se donner, pour te sacrifier, afin de nous offrir la vie éternelle. Que nous puissions être une bonne terre, vraiment, pour recevoir cette parole d'une manière positive. D'accepter sans réserve. D'accepter que nous ne sommes rien devant toi. Seigneur, que ce message d'aujourd'hui puisse trouver écho dans chacun de nos cœurs ce matin. Dans le nom de Jésus. Amen.